Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche, son président, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy, bonjour Bernard, bonjour à tous.
Alors, au sommaire de ce Variation en noir numéro 14, pour ce dernier vendredi du mois de décembre 2014, la poursuite de notre exploration du noir français, après Jérôme Leroy le mois dernier. Donc, nous poursuivons avec deux romans. Nous reviendrons d'ailleurs, Hervé, sur la notion de roman pour au moins l'un des deux. Deux romans qui sont sortis il y a peu, Sarah à la noire de Gianni Pirozzi, un inédit en rivage noir, collection de poche, et le deuxième titre, Fanny et Freddy, de Marcus Malte chez Zulma. Hervé, on commence par Sarah Lanoire. Une petite présentation de ce roman.
On commence par Sarah Lanoire. C'est une bonne chose de parler de Gianni Pirozzi, qui est un auteur qui n'est pas, enfin, à mon avis, pas assez souvent cité, chroniqué, voilà, même si nous, ici, on l'aime. Voilà, Gianni Pirozzi, il a publié ce qu'on peut appeler une trilogie. Il y a eu Romicide, il y a eu Hôtel Europa et l'excellent Quartier de la Fabrique. C'est quelqu'un qui nous a emmenés à la fois en Bretagne, puis en Irlande, puis pour le Quartier de la Fabrique au Kosovo. Voilà, c'est donc quelqu'un qui nous emmène dans des contrées différentes, qu'il connaît de façon très authentique. Et par ailleurs, Pirozzi, il est éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui a la particularité de connaître de très près et avec beaucoup de fraternité les tziganes, les gens du voyage, voilà, qui apparaissent. Évidemment, le premier livre s'appelait Romicide, on voit un peu un rapport.
Aux éditions Cop Bryce, Hervé. Donc,
voilà,
c'est un Breton, contrairement,
noir,
ouais, voilà. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, hein, vu le nom, Gianni Pirozzi, il s'agit bien d'un Breton.
Voilà, absolument, absolument, peut-être avec des origines.
Oui, sans doute.
on peut le penser. Et là, avec Sarah Lanoire, on est... bon, il change totalement de... Mais on verra que peut-être pas tout à fait. Il change en tout cas de cadre, puisque là, Sarah Lanoire se passe... on est au lendemain des émeutes des banlieues. Et notamment de Villiers-le-Bel, et ça se passe dans le quartier, disons Barbès, Château-Rouge, La Chapelle, voilà. Ça met en scène un lieutenant de police, Guillermo, qui était avant dans le sud, vers Aigues-Mortes, en Camargue, et justement, ça fait, télescoper une histoire qui a lieu, disons, presque aujourd'hui, une histoire très, très noire, avec ce flic Guillermo, et avec des retours dans le passé, 7 ans en arrière, avec une affaire avec laquelle il avait été confronté, qui était... La disparition de deux gamines, même pas ados, d'une famille gitane, dont l'une avait été retrouvée massacrée, et dont l'autre, l'aînée, Inès, n'a jamais été retrouvée. C'est une histoire qui hante Guillermo. Je vais te laisser quand même la parole, mais on dira que y a plusieurs personnages dans Sarah la Noire, mais Guillermo, on va quand même rajouter une chose, parce que c'est un personnage très intéressant, il est à la fois une espèce de bad lieutenant, il est un, comment dire, il deal dans les foyers, et en même temps, il met des filles au tapin, hein, voilà, c'est pas un
ripou,
c'est pas un flic bien en bleu,
ouais.
Et à côté de ça, il a aussi une face lumineuse, c'est un être contrasté, riche pour cela, et d'ailleurs, j'ai vu qu'à la fin, Gianni Pirozzi, parmi ses références, cite The Offense de Sidney Lumet, qui est un film qui mettait en scène d'une manière extrêmement risquée d'ailleurs à l'époque, Sean Connery qui sortait des James Bond, où il était quand même le beau gars que tout le monde aimait, et où là il jouait un flic brutal, complètement à contre-emploi de l'habitude, et on comprend la référence, mais je vais te laisser un peu la parole quand même.
Non mais on peut préciser, avec Guillermo et lui-même d'origine gitane, hein, fils d'un militaire, donc le flic qui a commencé sa carrière dans le sud, tu l'as dit, pas très loin des Sainte-Marie de la Mer,
où
se trouve une statue de Sarah la Noire, qui est la patronne des gitans. On sait, hein, qu'il y a des rassemblements réguliers.
Et ben voilà, Sarah la Noire, qui évidemment veille sur tout le livre, même si on ne la verra jamais. Oui, voilà. Elle n'est pas, voilà.
Alors un gitan chez les flics cousins, c'est pas courant, ça. Hein.
C'est quelqu'un. J'avais noté la même réplique.
Voilà.
Oui.
c'est un des personnages qui dit ça à Guillermo. Mais alors bon, tu as commencé à l'évoquer, la première partie, enfin le tout du début du roman. Donc on est effectivement une petite dizaine d'années en arrière quand se produit cette disparition, et c'est Guillermo, justement parce qu'il est d'origine gitane, à qui on confie, hein, d'aller voir ce qui se passe là au niveau de la communauté gitane. C'est quelque part lui qui est un peu chargé de l'enquête et qui prend un engagement auprès de la famille. Hein. Oui, je vais la retrouver.
Il prend un engagement auprès de la famille. Il retrouvera, et 7 ans après, il continue, d'ailleurs, je crois, voilà, tous les Noëls ou tous les à leur téléphoner il continue, et il retrouvera la fille qu'on n'a jamais retrouvée, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte, et c'est une histoire qui le hante, ce qui fait dire, d'ailleurs, le livre s'ouvre sur cette phrase, c'est l'histoire d'un homme entre deux mondes, et entre deux mondes, il l'est par diverses facettes.
Tout à fait, c'est ce que je voulais aussi dire. Donc la première facette du personnage Guillermo, que nous donne à lire Gianni Pirozzi, c'est celle d'un bon flic, hein, d'un flic qui est là pour protéger la veuve et l'orphelin, et très vite. Et je pense que c'est d'ailleurs la force du roman de Pirozzi. C'est d'ailleurs une sacrée énigme humaine.
Oui.
Guillermo se monte un flic violent, tu l'as dit, corrompu, proxénète. Il y a une autre histoire avec une jeune femme d'origine marocaine, hein, qui le tire des griffes d'un mari brutal, mais
oui,
finalement,
oui.
Ouais, voilà, mais finalement, c'est pour la faire sombrer dans la drogue et puis dans la prostitution. Donc c'est un personnage vraiment étonnant, plein d'énigmes. Et je pense que c'est effectivement ce qui fait la force de ce roman.
C'est la très grande force de ce roman.
Voilà.
Un mot quand même sur Afzia, parce qu'elle est aussi un beau personnage et complexe également. Comme l'écrit Pirozzi, 8 ans d'études au Maroc, ingénieur en hydrologie. 2 ans avec un mari qui te cogne en échange de te faire venir en France et de t'obtenir tes papiers. 12 mois dans ce foyer à apprendre à tortiller du cul, à écarter les cuisses pour payer tes doses. Et le type qui t'a foutu là, tu l'as dans la peau, profond. Oh merde, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Et le mec en question, c'est Guillermo, justement.
Et donc, effectivement, alors bon, tu l'as dit, hein, les différents romans de Gianni Pirozzi. Moi, je l'ai découvert avec Sarah la Noire, hein, mais du coup, je suis allé regarder un petit peu ses autres romans.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'il nous fait voyager, hein, tu l'as dit, là, cette fois, c'est à Paris, mais on s'est baladé, hein, dans plusieurs endroits du monde dans ses précédents romans. Et donc, il nous fait voyager, donc, en fin de compte, aux côtés de communautés qui font du voyage leur mode de vie. C'est ça aussi qui est intéressant.
Oui.
Mais en même temps, il a un regard sans aucun angélisme sur ces communautés du voyage. Donc on est bien dans la littérature. On n'est pas dans le témoignage, ni même dans le documentaire, ou même dans le roman prétexte. On est dans du roman noir, avec toujours les différentes facettes de chacun des personnages.
Oui, c'est tout à fait ce que tu dis. Il n'y a jamais de manichéisme. C'est Gianni Pirozzi dans le quartier de la Fabrique qui nous emmenait au Kosovo, et avec des Français qui au départ étaient partis pour diverses raisons, hein, comme des brigades, de mini brigades internationales pour aller au départ aider Luceca, et qui découvraient quand même que Luceca n'était pas ce que de bonnes âmes voulaient faire passer pur jus de valeureux combattants de la liberté. Et les choses étaient déjà paradoxales, il y avait des choses trappes et beaucoup de noirceur. Et là, c'est la même chose aussi, parce que Guillermo, on l'a pas encore dit, mais il est, de par ses activités délictueuses, il est dans le collimateur de l'inspection générale des services.
Oui.
Qui eux-mêmes se révèlent être des pourris, être des pourris complets, c'est-à-dire que la vision que donne Gianni Pirozzi, elle est jamais, comme tu dis, il n'y a aucun angélisme, il n'y en a pas non plus du côté des gitans qui, quand il y a eu, l'enlèvement des filles, etc., se sont vengés sur ceux qui avaient fait ça, le père Martinez, qui ont brûlé leur maison. C'est-à-dire que toujours, il y a une grande authenticité, enfin, il y a quelque chose, il a toujours, les zones d'ombre et les zones de lumière, elles sont toujours là pour tous les personnages. Parce que, effectivement, même, on l'a vu, même Avzia, elle est paradoxale, enfin, tout ça, et puis, il y a un autre personnage,
Djibril,
un jeune gars qui a été incarcéré après les émeutes, enfin, bon, ça, c'est vraiment, je trouve, la force de Gianni Pirozzi. On est loin d'une, comme tu disais, d'une littérature prétexte, tract, ce que tu veux. Enfin bon, voilà.
Donc c'est en Rivage Noir, Sarah Lanoir.
Voilà, et j'allais quand même ajouter une dernière chose. Il y a une, justement, pour la première fois chez Gianni Pirozzi, il y a une belle évocation de ce qu'on peut appeler, de ce qui reste du Paris populaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce Paris du nord-est parisien. Mais alors loin de toute image d'Épinal, c'est-à-dire là où sont encore parqués les prolétaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire notamment les populations d'origine immigrée, avec les quartiers insalubres, ce que lorgnent les promoteurs, etc., et tout, évidemment, les trafics qui peuvent s'y passer, enfin tout ce qui se passe chez les pauvres aujourd'hui, quoi, voilà. Et il le fait là aussi. C'est pas Amélie Poulain, quoi. Voilà, c'est vraiment au plus près.
Thank you. discrétion de ta part, ou bien est-ce par pudeur? Tu as pris ta guitare, maintenant tu chantes ailleurs. Lourd fardeau que tu me laisses, tout ce qui reste derrière toi, tu m'as appris sans cesse à devenir un roi. Les rêves de nous deux me font vivre avec toi. La nuit, nous, on est deux. Le jour, il n'y a que moi.
Radio PFM, Variation en noir, Bernard à la technique et aussi à la programmation musicale, un morceau de
Swing Gadget, attends quand même un peu.
Voilà, alors Hervé, après Gianni Pirozzi, Sarah Lanoir, nous avons lu et apprécié, on peut le dire tout de suite, Fanny et Freddy de Marcus Malt aux éditions Zulma. Marcus Malt un auteur qui a la réputation d'être un styliste dans le roman noir français.
Ah ben je pense que c'est un grand styliste, oui, ça c'est un des plus grands stylistes du roman noir français, c'est absolument indéniable, ses livres sont un bonheur de lecture de toute manière, c'est vraiment quelqu'un qui manie la phrase, la langue avec une musicalité, enfin bon c'est, voilà, il est d'ailleurs... lui-même a du tempo jazz, enfin voilà, il a d'autres cordes à son arc, mais
oui,
voilà,
il a été musicien apparemment,
oui,
lui.
Oui, absolument.
Je le disais en introduction, je parlais de deux romans aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de romans pour Fanny et Freddy? Alors déjà, il faut le savoir, Fanny et Freddy, c'est le titre du premier texte que nous propose Marcus Malt avec ce livre, mais il y en a un deuxième, « Ceux qui construisent les bateaux ne les prennent pas ». Et ce sont deux textes assez courts. On est des nouvelles peut-être un peu longues, mais des romans un peu courts. Comment classifier?
En fait, c'est un format courant chez les anglo-saxons, les Américains notamment. C'est ce qu'on appelle une novella, c'est-à-dire mais qui est un format qui ici a plus de mal à s'imposer. C'est-à-dire que oui, c'est entre le court roman et la longue nouvelle, on veut dire.
Ouais,
mais
c'est ça,
voilà,
ouais.
Mais d'où la novella. Mais voilà, c'est en général quelque chose qui fait très peur aux éditeurs parisiens, ça.
Voilà. Alors, Fanny et Freddy, c'est l'histoire d'un enlèvement, on va dire ça comme ça. Hein, c'est surprenant, hein, puisque c'est une jeune femme, une infirmière, qui va enlever un jeune trader, on dit ça comme ça, enfin quelqu'un qui travaille dans la finance. Ça se passe à New York. Hein. C'est un enlèvement avec un fond social très fort, parce que les érudits, enfin les spécialistes de l'économie immobilière feront peut-être le lien, mais Fanny et Freddy, ça fait penser à la crise de l'économie immobilière qui a entraîné une crise de l'économie en général dans les années 2007-2008, Hervé.
Oui, tout à fait. Et le roman, c'est, il y a une phrase au tout début quand Fanny arrive à New York, on dit elle s'enfonce dans les rues de New York comme un bathyscaphe dans les abysses. Et les abysses, ça va commencer par ce parking à Manhattan, je crois, où elle va enlever le trader en question. Et oui, c'est l'histoire d'une vengeance, parce que Fanny, elle est la fille de gens qui ont été son père notamment a fait partie de ces bâtisseurs de l'Amérique.
De l'industrie, enfin, oui.
Voilà, c'est-à-dire que c'était à... ses parents travaillaient à la Bethlehem Steel, enfin son père, les copains de son père, qui était une des très importantes entreprises de sidérurgie. Et comme elle dit, quand elle a ce face-à-face avec le trader qu'elle a enlevé, les hommes dont je te parle ont forgé le fer et l'acier qui servaient à la construction des plus gros navires, des plus grands ponts, des plus hautes tours que tu puisses imaginer.
Une double victime, le père de Fanny, on pourrait dire à la fois, donc quelqu'un qui s'est retrouvé au chômage, mais quelqu'un qui avait aussi donc acheté sa maison en empruntant de l'argent et qui se retrouve, qui doit se retrouver à la rue, quoi. Donc
à cause de l'escroquerie des subprimes, etc. Il se retrouve totalement ruiné et c'est pourquoi elle interroge le trader en lui disant: toi, es-tu un homme qui bâtit l'Amérique ou es-tu un homme qui la détruit? Il y a une évocation d'ailleurs de ces hommes, de ces sidérurgistes qui, comme elle le dit, il y a une belle formule qui était des dompteurs du feu. Et ça m'a fait penser à un documentaire absolument splendide que j'ai vu il y a peu qui s'appelle Braddock America, un film de Portron et Kessler, sur la plus grosse entreprise de sidérurgie dans le nord-est américain. Et voilà, et le livre, il est porté par ça, et c'est une des grandes forces, peut-être un peu pas une nouveauté, mais une autre dimension chez Marcus Maltz, qui a plusieurs cordes à son arc. Marcus Maltz, il nous a habitués à nous montrer une espèce de folie à l'intérieur des êtres et à aller au profond de ce qui les fait basculer. On le voyait, il y avait eu une autre novella il y a 2 ans qui s'appelle Canis, et où on voyait ça à l'œuvre, et on voit ça dans ses romans et ses nouvelles précédentes. Et là, il y a 2 choses, c'est-à-dire qu'il y a cette violence individuelle qui va être la violence, la revanche, la vengeance de Fanny, mais qui n'est qu'en fait qu'un écho, et finalement un maigre écho à une énorme violence, sociale que tu as évoquée.
Oui, et là encore, c'est ce qui fait vraiment tout l'intérêt du livre, c'est qu'on n'est pas dans le manichéisme, parce que Fanny, elle est aussi dans une position de séduction par rapport à Freddy. Hein, c'est aussi une femme qui cherche à séduire. D'ailleurs,
elle veut être aimée.
Voilà, elle veut être aimée, et on va laisser les lecteurs découvrir l'enjeu de cet enlèvement, hein, mais qui est lié à ce besoin d'être aimé, de séduire, d'exister aussi en tant que femme, hein. Et je pense que c'est un aspect très important de ce roman qui, encore une fois, comme pour Gianni Pirozzi, n'est pas dans l'incantatoire, la dénonciation type tract, etc. C'est vraiment de la littérature. Moi, ça m'a fait penser, Hervé, même si on est dans des registres un petit peu différents d'écriture, au couperet de Donald Westlake.
Voilà, l'écriture est tout à fait différente, mais on est dans ces mêmes registres-là, dans le registre d'être sur les traces, au plus près d'un individu qui prend une espèce de revanche personnelle par rapport à un système. Et effectivement, il y a de toute façon, tu fais donc référence à un grand auteur américain, mais il y a, que ce soit dans des genres différents comme on l'a vu, mais que ce soit chez Pirozzi ou chez Marcus Maltz, il y a cette grande force du roman noir, ce qui prouve bien qu'il existe en France aussi, qui est d'aller voir l'envers du décor et l'envers des personnages, et qui justement ne peut pas être marqué par un quelconque manichéisme ou militantisme de l'écriture. Enfin, voilà, c'est une...
Oui, le couperet, on peut dire rapidement, hein, c'est pareil, aux États-Unis, c'est un ingénieur d'une papeterie qui est licencié, donc le poste qu'il occupait, il en reste très très peu aux États-Unis, il doit rester peut-être 1 ou 2 usines qui cherchent un ingénieur de ce type, et il y a plein de candidats, et donc lui, il décide d'éliminer ses concurrents potentiels.
Absolument.
Donc, c'est aussi... moi, vraiment, j'ai fait un lien, même hein, ce sont deux histoires différentes, mais c'est un traitement assez proche de cette question sociale et dysfonctionnement hein, de nos sociétés. Parce que il y a des moments où on sourit aussi en lisant Fanny et Freddy.
Il y a aussi beaucoup d'humour. D'abord, il y a cette paradoxale soif d'amour de Fanny. Il y a le trader enlevé qui vraiment décidément n'y comprend rien oui. parce que lui se croit innocent de tout, mm-hmm. Comme si l'innocence existait. Et voilà, il a beau avoir des dizaines de milliers de dollars sur son compte et un BlackBerry et tout ce qu'on veut, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et par ailleurs, et ça le lecteur le découvrira, face à une espèce de folle demande de Fanny, il est de plus en plus, époustouflé, affolé, tout ce qu'on veut. Et c'est ça toute la force de ce récit, je pense aussi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est, en fin de compte, Freddy, il se rend compte qu'il est face à un être humain, hein, pas simplement oui. une machine qui est là pour se venger, mais il y a beaucoup plus de complexité. Quoi.
Oui, oui. Et je crois que tu as raison de faire le lien, c'est cette espèce de petite folie qu'il y a à l'intérieur de Fanny, comme il y a dans le personnage qui élimine les concurrents du coup près de Westlake. C'est ça qui est la grande subtilité des auteurs, c'est d'aller justement, plutôt que de décrire les choses comme une espèce de champ de bataille et tout ça, c'est d'aller à l'intérieur de ces personnages pour qu'éclate tout ce qui le provoque et l'entoure. Ça, c'est très fort, oui.
C'était Variation en noir sur Radio PFM, dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Rendez-vous dans un mois, fin janvier, pour d'autres explorations du noir, avec notamment un gros plan, Hervé, sur le prochain numéro de la revue 813.
Eh bien, le prochain numéro de la revue 813 qui propose un gros dossier sur les 70 ans de la série noire et par ailleurs une interview de Leonardo Padura et d'autres choses. On en reparlera. Donc merci.
Voilà, merci Hervé, de bien bonne lecture à toutes et à tous.
Pareil, et très bonne fête à vous tous, et très bonne lecture aussi. Voilà.
Au revoir et à l'année prochaine. Merci.